Une demi-heure, c'est beaucoup trop court, bien sûr. Moi, j'ai bien senti à t'écouter, qu'on n'avait pas eu le temps d'échanger là-dessus, comme finalement le lien avec la Razée et le lien avec Saint-Antonin ne sont pas les mêmes. Il y a des racines d'un côté, il y a un objet d'étude de l'autre, même si c'est marié ici. Et ça me donne à penser, c'est la question que je pose moi, mais je vais donner la parole à la salle. On ne parlerait sans doute pas aujourd'hui de Saint-Antonin comme il le fait, comme un lieu où s'illustre l'histoire de France. Tu en as bien parlé. Ici, c'est un lieu d'expérimentation de l'étude de l'histoire de France. Alors qu'aujourd'hui, il me semble qu'on regarderait Saint-Antonin beaucoup plus comme un acteur indépendant de son histoire, que ce soit la charte communale, le mouvement protestant de révolte contre le roi de France, ou même l'attachement à l'Occitanie. Tout ça fait quelque chose qui aujourd'hui serait probablement le centre des intérêts. Je ne suis pas sûr que. Tu as dit que Claude Sixe se reconnaîtrait dans la philosophie et l'attachement de. Oui, voilà, on aurait pu avoir un débat là-dessus. Voilà, je pose cette question parce qu'elle existe vraiment. Je vais donner la parole tout de suite, pour qu'on ne l'oublie pas, au témoignage de Georges Cosnier sur l'aventure qu'a été l'édition de l'Histoire de France de Jean Dolin.
Oui, vous m'entendez. Quitte à vous décevoir, je vais peu vous parler de Jean Donat, mais vous dire quelques mots sur ce livre. En 2004, Madame Isabey, lors d'une réunion du conseil d'administration, notre présidente Jeanine Isabey, ici présente, nous apporte un carton rempli de bulletins paroissiaux. Ces bulletins paroissiaux lui ont été remis au cas où il présenterait un intérêt historique pour notre village. Les bulletins paroissiaux dataient des années 20 aux années 50, nous étions en 2004. Ça n'a pas soulevé un enthousiasme important. Je me suis senti, j'ai voulu les prendre, j'ai demandé à les prendre pour les consulter. J'ai donc emmené la caisse chez moi. Dans les premiers numéros, j'ai retrouvé ce que je comptais trouver dans un bulletin paroissial, c'est-à-dire le mot du curé, les événements de la paroisse, etc. Et puis, après quelques exemplaires, je trouve un article de l'abbé Galland qui s'adresse à Jean Donat et qui lui dit: l'histoire de Saint-Antonin est riche, je ne la connais pas. Mais vous, vous la connaissez. Et si vous acceptez, je vous offre des pages de mon bulletin paroissial pour que vous puissiez nous l'écrire. Et nos lecteurs apprécieront. Alors, à partir de là, bien entendu, j'ai parcouru tous les articles. Et une fois, après un certain nombre de mois, lors d'un conseil d'administration, je leur ai dit, écoutez, ça me paraît très intéressant. Mais si on ne fait rien, c'est perdu. Que vont devenir ces bulletins paroissiaux? Alors, le conseil d'administration a accepté l'idée d'en faire une édition. Alors, j'ai commencé à regarder un peu plus près les dispositions des bulletins. Je me suis dit, zut, il faut que je découpe toutes les pages, je n'en suis pas sorti. Alors, j'ai eu le secours de Jean-Michel Bourgère, Michel de Toupette pour les intimes, qui m'a dit: mais moi, je vais te scanner tous les articles concernant l'histoire de Saint-Antonin. Donc, je me suis retrouvé avec un document de travail beaucoup plus compact et présentable à un imprimeur. Alors, j'ai restructuré un peu ces articles. Les articles de Jean Donat se terminaient après la guerre de Cent Ans, mais le bulletin paroissial a continué à publier des articles. Le siège de Saint-Antonin, le retour au catholicisme, par exemple. Alors, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou. Et ce trou, c'était la période protestante. Jean Donat n'avait pas eu le temps d'en parler, et bien entendu, les membres qui avaient continué n'avaient pas envie de parler de l'époque protestante. Alors, je savais, parce que je l'avais découvert dans la collection des Amis du vieux Saint-Antonin, que Jean Donat avait écrit un petit livre sur la période protestante à Saint-Antonin. J'en ai profité pour le lire, je ne l'avais pas fait. Et puis, je me suis dit, mais c'est la suite. Parce que les articles du bulletin paroissial se terminent au XVe siècle, et la période protestante, ça va jusqu'au XVIIe, quoi. Alors, je me suis déplacé pour aller voir Madame Sintz et Madame Châtel, qui étaient les petites filles de Jean Donat, et qui m'ont très volontiers donné l'autorisation d'ajouter à ce livre la période protestante. Donc, le livre que vous avez là, qui vous est proposé à 15 euros, comprend deux parties. La première partie, ce sont les articles du bulletin paroissial, et la deuxième partie, sans retouche, le livre de Jean Donat sur la période protestante. Merci.
Voilà, paroissial, mais sans prédication. Hein. Alors, ceux qui veulent prendre la parole, ils peuvent le faire maintenant. Il y a des questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont connu Jean Donat? Nicole, vas-y.
J'ai pas connu Jean Donat. J'ai une question à la Maison de la Culture de la Razette, qui va être l'éditeur, si je comprends bien, de la communauté rurale à la fin de l'Ancien Régime. Est-ce qu'on prévoit un prix de gros pour la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin? Ma question, c'est, puisque là il est question de la Razette et de Saint-Antonin, ma question c'est, est-ce que par la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, on réunit un groupe de lecteurs potentiels, la Maison de la Culture nous fait un rabais.
Est-ce qu'il serait possible que la famille de Jean Donat participe à un travail plus ambitieux qui consisterait à récapituler l'ensemble des textes qu'il a écrits et en fasse ensuite, pas seulement l'ouvrage Recension qui est là, mais l'ensemble qui soit ensuite versé à la Société des Amis ou à d'autres utilisables ou aux archives.
Tout est là, il suffirait de les numériser. Personnellement, je ne m'en sens pas capable. Non, je n'ai pas le courage pour être dire. Mais avec une bonne machine, et puis il n'y a pas un Jean Donat dans la salle qui puisse faire ça.
On a le projet de numériser avec la Bibliothèque nationale les articles de nos bulletins. Mais là, c'est un autre exercice, bien sûr.
L'idée, c'est pas de numériser, après, c'est le boulot à faire, mais ce qu'il faut, c'est recenser de façon exhaustive, en mise en perspective, etc., l'ensemble des travaux. Or, pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu éparpillé. Il y a des archives familiales, il y en a d'autres qui sont à l'association, etc. Premier boulot, c'est de recenser. Enfin, c'est de faire un catalogue raisonné, grosso modo, quoi, c'est ça. Quoi ? Non, je crois pas.
Oui, bien sûr, on a simplement eu l'ambition de faire d'éveiller le désir de ça, certainement pas d'y répondre.
Je voulais dire, ma mère a été élevée dans le vieux Toulouse, rue comment, la d'Albade ou par là, et donc ils ont vécu historiquement aussi dans Toulouse. Il n'y a pas d'écrits spéciaux, vous en connaissez pas?
Si.
Il y en a?
À un moment, le Grand Selve, ça te dit quelque chose? C'était une congrégation où il y avait plusieurs églises, et il y a eu un recensement juste avec la Révolution de tous les biens du Grand Selve. Alors, je ne sais pas si ça a été édité.
Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il ait pris Toulouse comme un objet, comme il a pu faire avec la Razée ou avec Saint-Antonin. Il préférait des objets locaux et sur lesquels il plaquait une vision nationale de l'histoire. Et il aurait pu le faire sur Toulouse, mais ça aurait été une entreprise. Il avait un public toulousain. c'était les sociétés savantes de Toulouse devant lesquelles il parlait, de Toulouse ou de Montauban. Je vois plutôt comme ça, je ne sais pas si tu es d'accord.
Bon, je perçois tout simplement que ce qui est surprenant, c'est qu'il est autant écrit. C'est ça qui est surprenant. Parce que nous-mêmes, lorsqu'on a aujourd'hui, vous savez, pour faire une page, certains, il leur faut une vie, quoi. Alors que lui, Jean Donat, il écrivait à tour de bras. Donc non, il était à fond, quoi. C'est un chantier monumental qu'il a fait. Mais par contre, ce que je crois, c'est que ce qui a été un stimulant et en même temps un poids pour lui, c'est le fait qu'il travaillait à beaucoup de revues. Donc je crois que c'est un stimulant parce qu'il avait plein de contacts, il était éveillé. Et en même temps, c'était un poids parce que comme c'était un type qui écrivait, on le sollicitait énormément, on le chargeait la mule, quoi. Comme ça arrive aujourd'hui encore, ceux qui écrivent, on leur charge la mule. Et les gens ne se rendent pas compte de la pénibilité, parce qu'on voit la pénibilité du père de Jean Donat, mais faire ce qu'il a fait, c'est un travail de fou, quoi. C'est hallucinant. Et il faut lui rendre un hommage formidable. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que là où on voit bien des choses, c'est dans les 8 cahiers de la Grande Guerre, puisqu'il y en a 11, mais pour l'instant, il n'y en a que 3. Que 3 qui sont perdus, et 8. Mais on voit très bien qu'à Toulouse, il est comme un poisson dans l'eau également. C'est-à-dire à Toulouse, il connaît tout le monde, il a eu toute une génération d'élèves qui sont des élèves brillants, puisqu'ils ont tous réussi, ils sont tous implantés. Et par exemple, lorsque M. Houllier est en difficulté, il alerte toute la ville de Toulouse pour essayer de le faire libérer, quoi, pour avoir des informations, puisqu'il a disparu, on ne sait pas où il est. Donc à Toulouse, lui, vraiment, il est comme à la rasée, quoi, à Toulouse. Il connaît tout le monde, il est vachement bien informé. Et alors, ce qu'il y a de curieux, c'est de voir cette navigation. Parce que vous avez compris quand même que Jean Donat, il n'était pas toujours linéaire, quoi. C'était un rude client, quoi. Il a son caractère, voilà. Et alors là où on voit quelque chose, et je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, parce que c'est extraordinaire, c'est que nous, à la Razette, on a deux sources formidables sur la Grande Guerre. Une source unique en France, mais véritablement unique, c'est le journal historique de la Grande Guerre. Il fait 11 énormes volumes, qui a été rédigé par le maire, l'instituteur, le curé et un négociant, un tailleur. Et tous ces gens-là avaient 55 ans. Tous les soirs, ils se réunissaient à la mairie et ils notaient tout ce qui s'est passé. Donc, ça commence par les faits locaux. Ils notent tout ce qui se passe, un permissionnaire qui arrive, qui part, les prix, enfin, tout là-dedans. Et puis après, ils notent les événements militaires. Ça, c'est le bourrage de crâne par excellence. Ils sont des copistes de la petite Gironde, etc. Et puis, on a une deuxième source qui est celle de Marie, une dame de la Razée, qui écrivait à son mari et qui raconte un tout autre village. Ce n'est pas du tout le même. Dans le journal de guerre, c'est l'histoire officielle, l'histoire des hommes en plus. Elle, c'est une femme humble. En plus, c'est une écriture privée. Eux, ils font une écriture publique. Donc déjà, il y a des choses qui sont en décalage. En particulier, les gens du journal de guerre disent « Oh, les rases de toit, ils se plaignent, les paysans se plaignent, mais ils ne souffrent pas tant que ça. » Alors que Marie, elle montre qu'il y a quand même beaucoup de souffrance morale et matérielle. Et Jean Donat arrive, un ovni qui arrive, parce que pour moi, lorsqu'il arrive à la rasée en 1916, c'est un ovni. Il s'est arraché de la rasée, il a tous les codes, mais un décalage de 20 ans, lorsqu'on ne vient plus dans un lieu, on est loin, quoi. Lui, il est en plein dans la fourmilière toulousaine, il arrive dans le village, il a l'impression que le village est mort. Et ça, c'est très, très intéressant. Mais je pense que c'est un regard toulousain. Déjà, il est un urbain. Ensuite, lorsqu'il arrive, il voit des choses avec des yeux différents. Par exemple, dans le journal de guerre, on ne fait que dire que les travaux agricoles se passent très bien. Lui, il dit, il se passe très mal. Fils de paysan, il connaît. Il regarde, il voit les vignes ne sont pas sulfatées correctement, on manque de bras. Il a vite... Mais voilà, donc là, il devient un témoin, pas seulement un historien. Mais il y a des événements, et ça c'est tout à fait extraordinaire pour nous, c'est que donc on a un troisième regard, et un regard extrêmement avisé, celui de Jean Donat, avisé en même temps militant, hein, parce que c'est un militant de l'Union sacrée. Absolument. Il faut que les Boches crèvent, quoi. Il n'y a pas 52 000 solutions. Jaurès, il ne l'a pas dans le nez, quoi. Il ne l'a jamais eu dans le nez. Voilà. Et donc, c'est Jean Donat. Et donc, on pourrait penser, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'œuvre de la Razette, on pourrait penser, l'œuvre, je veux dire, du journal de guerre, pourrait lui plaire, pourrait lui convenir, puisque c'est un effort d'union sacrée. Les types, ils font leur guerre sur le journal. Et ils haranguent un peu les foules, en quelque sorte. Ils disent, il ne faut pas se plaindre, pas de paix boiteuse, pas de souffrance, pas de pleurs, etc. Et donc Jean Donat, ça devrait lui plaire, ça. Mais ça ne lui plaît pas. Et vous allez voir pourquoi ça ne lui plaît pas. Donc, un beau jour, étant donné qu'il est très, très bien informé, Jean Donat est très, très bien informé, vous l'avez compris. Il est très bien informé parce que, d'abord, c'est un homme avisé, qui lit, qui a beaucoup de contacts, qui se renseigne, qui interprète, qui est sur Toulouse, il a plein, plein, plein de contacts, il sait plein, plein de choses. dont il s'est trié les choses. Et puis, il y a aussi M. Houllier, dont on est passé un peu vite tout à l'heure, parce que M. Houllier, qui parle parfaitement l'allemand, est dans les premières lignes dans le travail d'espionnage. Et c'est pourquoi il a été arrêté. Comme il parle allemand, bien sûr, il décode tout ça. Enfin, voilà, M. Houllier lui envoie des informations de première main. C'est ainsi que Antoine Prost, le grand historien de la Révolution française, à qui j'ai envoyé le texte, me dit, mais ça c'est extraordinaire, en 1916, Jean Donnat porte des éléments critiques sur la défense de Verdun. Et Antoine Prost m'a répondu en disant, là il n'y a personne qui est en France, pratiquement, la critique sur Verdun est venue après la guerre, jamais pendant la guerre. Et donc, parce que c'est sans doute M. Houllier qui est en première ligne et qui lui a dit, il y a eu des négligences, etc. Passons. Donc le journal de guerre, ça doit lui plaire. Et donc les Larazetois, qui sont quand même des rudes clients aussi, les rédacteurs, quand Jean Donnat vient à la raser, ils essayent de l'harponner. Ils disent, s'il pouvait venir au comité, ce type-là, il est bien informé, tout ça, il va nous apporter des sources de première main. Il n'est pas très enthousiaste, parce que les animaux, il les connaît bien. En plus, ce sont les exploiteurs de son père. Voilà. Donc ça, il ne le dit pas, mais enfin, c'est gros comme une maison. Ils ont fait marner mon père, voilà. Et donc maintenant, ils viennent me faire des... Maintenant, c'est un notable, Jean Donnat. Donc on le voit différemment. Mais lui, il sait qu'il est toujours le fils du paysan pauvre du village. Voilà. Et alors, juste, je vous lis deux ou trois passages. Alors, dans ce journal de guerre où on rédige, il y a les journaux. Et alors, il dit, on y lit les journaux, mais tout de même, nuance, ou à peu près. On a systématiquement exclu la dépêche, qui a souvent, il est vrai, tendu à rompre l'union sacrée. Jean Donnat déteste la dépêche. Mais il se dit quand même, si on est historien, il faut qu'elle soit sur la table. Voilà. Il faut, oui, il est déçu de la dépêche parce qu'il trouve qu'ils sont trop anticléricaux, tout simplement. Et aussi parce qu'il y a Jaurès qui a écrit dedans. Voilà. Et donc, pour lui, la dépêche, bon, mais en fait, il dit quand même, en tant qu'historien, si on veut avoir des nouvelles, il faut au moins avoir la dépêche. Ça paraît évident. Et les types, à la rasée, ils ne vont pas avoir la dépêche, bien entendu. Et alors, là, il se moque, et puis vous allez voir, il est amer quand même. Il est remonté comme une pendule. Nos historiens locaux, alors ça c'est vraiment très péjoratif, et là il les empaille complètement. C'est-à-dire, ses bras cassés, on va dire, les bras cassés, voilà une note symptomatique d'une évolution des esprits. Bon, je ne prononce pas une parole, ne me trouvant là que par accident. C'est-à-dire, si je m'énervais, je leur mettrais des claques. Ça veut dire ça, quoi. Ils sont d'ailleurs curieux, mes collègues du comité, dont on a voulu que je fasse partie. Ils ont une confiance absolue dans tous nos chefs, ce qui part d'un bon naturel. Mais comme je voulais critiquer certaines mesures incomplètes de défense prises autour de Verdun, je devine tout de suite que je me heurte à un état d'âme qui se sont créés au cours de leur quotidienne réunion. Omerta. Leur culte pour les grands chefs, leur confiance absolue dans le succès final, leur volonté d'aboutir coûte que coûte, leur a fait des âmes de fanatiques. Ils sont la vérité, leur seule vérité. Donc, vous voyez comment il est sévère, hein, il est très sévère, alors que c'est une œuvre qui devrait lui plaire, mais voilà, il est à la fois un homme militant, engagé, un citoyen, etc., républicain, comme on l'a dit, mais il sait faire le tri, toujours, dans les événements.
Mon grand-père Houllier, il a bien connu Jaurès, il était de Villefranche-de-Rouergue et Albigeois, et ils se sont fréquentés, mais je ne sais pas beaucoup plus, en sait plus. En tous les cas, il n'y a pas des courriers. Il y a des courriers. Ils sont. Oui.
Ils étaient à Berlin. Oui. Montrant Jaurès, effectivement, parce que mon grand-père, comme il parlait l'allemand, a eu une bourse l'année 2012-2013 pour aller à Berlin. Donc il a fait tout à. Pour... Ah oui, oui. Oui, oui, 1912, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah bon, oui, oui, oui. Non, mais. Je le rajeunis. Et il a fait d'ailleurs tout un compte-rendu assez intéressant de ce voyage, très intéressant même. Qu'est-ce que je voulais dire? Et effectivement, il a vu Jaurès est venu à cette époque-là à Berlin, il a fait un discours et après ils se sont un peu fréquentés. Il y a une photo où on le voit, où ils ont discuté. Mais je ne sais pas s'ils se connaissaient vraiment. Les socialistes allemands, ils pensaient les persuader de militer contre la guerre. Or, les socialistes allemands à l'époque étaient aussi nationalistes que les autres. Et donc, ça a été un échec.
Ouais. Oui, non, mais c'est tout à fait intéressant. J'ajoute juste, parce que ça c'est un document passionnant, le rapport de Gustave Houllier sur le séjour en Allemagne est un grand document ethnographique. Nous sommes en 1912-1913, il ne doute pas un instant, il ne pense pas qu'il y ait la guerre, ça se passe très bien, il visite en long et en large l'Allemagne, mais il y a des passages extraordinaires, parce qu'il va vous décrire 3 pages sur le marché avec tous les poissons, mais il va aussi au meeting de Jaurès, mais également, c'est une forte tête. Hein.
Oui.
Deux fortes têtes, et c'est normal que ça ait frité.
Oui,
c'est
vrai.
Parce qu'il dit, et en plus il le dit naturellement, il dit, bon, je suis allé là-bas, le but c'est d'aller étudier comment on enseigne la philosophie en Allemagne, parce qu'il est prof de philo. Et donc, il dit, il n'y en a aucun qui m'impressionne, des philosophes allemands. Il dit, il y a Simmel, je suis allé écouter Simmel, ça c'est un bon, mais les autres, ils sont surfaits.
C'est le monde des universités entre eux. Il est tard, vous avez tous besoin d'aller dîner, et les conférenciers aussi. Rappelle seulement les suites qu'on va donner à cette conférence. D'abord, on va publier dans le prochain bulletin les articles qui se tirent de ce qui a été dit par les conférenciers. Ensuite, j'ai entendu ce qu'a dit le représentant de la Rasée parmi nous. Il y a une réflexion sur une réédition. On est très loin du compte, mais c'est un travail qui reste à faire et qui mérite sans doute d'être entrepris. Et on donnera peut-être ce signal dans notre bulletin. Et puis, je rappelle ce que j'ai dit au début. On est engagé dans notre association dans un projet de réédition de ce que notre bulletin a apporté à l'histoire de Saint-Antonin par tous ses articles. Et ça va nous amener à soumettre les écrits sur la période médiévale, notamment donc ceux de Jean Donat, au regard critique des médiévistes d'aujourd'hui. Donc nous cherchons les médiévistes à Toulouse ou ailleurs qui pourront lire le travail que nous proposons ici à la vente, que Jean Donat a fait sur notre histoire du Moyen-Âge à Saint-Antonin. Et ça, si ça sort, on le publiera en même temps. Merci. Merci beaucoup.